This paper has been slightly modified to optimize your listening experience. While we have included a brief description of the figures and tables, all references, citations, parentheses, appendices, footnotes and endnotes have been removed. To obtain these tables, figures, appendices, full references and citations for this paper, please view the PDF version at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca. The copyright for this article belongs to the authors and is openly released under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. The title of this article is
L'apprentissage connecté des jeunes en contexte d'éducation formelle francophone.
Connected learning for young people in the context of formal French-speaking education. The authors of this article are
Éric Bruyard, Kansa Gabara, et Sonia Huguenin, Université de Paris. Pierre-Luc Jolicoeur, et Thérèse Laferrière, Université Laval. Sophie Nadeau-Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi, et Katia Papi, et Marie-André Pelletier, TELUC. Résumé. L'apprentissage connecté est une pratique éducative croissante qui a été repérée par les délégués ESD du Summit 2019 et qui en ont fait un thème de travail lors de leur examen des relations curriculum-pratiques pédagogiques évaluation des apprentissages. Le présent article porte sur la manière avec laquelle le concept Connected Learning a été interprété et mis en œuvre dans le contexte culturel français et francophone, et il suggère que les passages de frontières, qui en reflètent le dynamisme, améliore l'éducation formelle, notamment dans des cas d'élèves ou de classes défavorisées. Cette interprétation repose sur des repères historiques ainsi que sur les notions d'agentivité, d'interaction et de connexion. L'étendue et la mise en œuvre de ce concept sont illustrées par le cas de l'école en réseau, une innovation qui s'adapte selon les contextes, dont celui de la COVID-19, par des allers-retours entre le local et le délocalisé. Deux interrogations en ressortent. L'une concernant la reconnaissance des apprentissages réalisés en dehors du contexte de l'éducation formelle et l'autre, la gestion de la désinformation. Mots-clés, agentivité, connexion, usage du numérique, innovation.
Abstract. Connected learning is a growing educational practice that was identified by EDU Summit 2019 delegates as a theme for their examination of the relationship between curriculum pedagogical practices and learning assessment. This paper focuses on how connected learning has been interpreted and implemented in the French and Francophone cultural context, and suggests that border crossings, which reflect its dynamism, enhance formal education, especially in cases of disadvantaged students or classes. This interpretation is based on historical benchmarks as well as on the notions of agency, interaction, and connection. The scope and implementation of this concept is illustrated by the case of the networked school, an innovation that adapts to different contexts, including that of COVID-19, by going back and forth between local and delocalized learning activity. Two questions emerge, one concerning the recognition of learning outside the context of formal education and the other, the management of misinformation. Keywords, agency, connections, digital uses, innovation.
Introduction. Depuis la pandémie, les sous-champs de l'éducation voient leurs frontières se résorber, phénomène que le numérique accélère d'ailleurs depuis quelques 25 années. Ainsi, la plupart des pays ont urgemment modifié leur offre de formation afin d'assurer une continuité pédagogique. Entre autres, les enseignants ES de la France et du Québec ont cherché par tous les moyens à garder contact avec leurs élèves à la maison, notamment à l'aide des technologies et des ressources numériques. À cette fin, plusieurs ont eu recours aux instruments, outils et artefacts de l'apprentissage connecté. Dans la foulée des propos d'Ito, Gutiérrez et Al ainsi que de ceux de Quimpulénan et Sefton Green, nous retenons le concept d'apprentissage connecté pour Explorer, de manière heuristique. Ces passages de frontières concrétisés par des interactions à des fins de connaître rendues notamment possibles par les instruments, outils et artefacts numériques. L'adoption de ces derniers, auparavant vus par plusieurs de la scène éducative comme de l'ordre d'un simple enrichissement, devenait dorénavant nécessaire. Cet article sur l'apprentissage connecté propose d'abord des repères historiques tirés de la littérature francophone et de la littérature anglophone, avant de s'intéresser à l'agentivité des acteurs ES ainsi qu'aux interactions et aux connexions qui distinguent cette pratique éducative. Ensuite, un cas est présenté, celui de l'école en réseau. Ce faisant, nous couvrons presque 20 années en nous centrant sur les principales opportunités qui ont permis d'accroître la présence de ce dispositif dans l'éducation formelle des jeunes. Il en résulte deux questions, celle des modes de reconnaissance au local de l'apprentissage connecté dans l'éducation des jeunes et celle de la gestion de la désinformation. Apprentissage connecté, des repères. L'apprentissage connecté, qui allie tradition avec technologie et ressources numériques, appelle des passages de frontières temporelles, spatiales, sociales ou culturelles. Les repères historiques présentés dans cette section en font état. Quelques repères historiques en milieu francophone. Parler d'apprentissage connecté conduit à penser à Internet, une technologie qui existe pourtant depuis 50 ans, mais cette pratique éducative peut apparaître comme une chose radicalement nouvelle, sans précédent. Dans une acception générale, il s'agit d'un apprentissage soutenu par l'interaction avec différentes personnes, en lien ou non avec des institutions. En ce sens, c'est certainement la forme la plus ancienne et la plus répandue d'enseignement et d'apprentissage. Sans technologie de gestion de la distance, elle demeure toutefois locale, l'interaction étant limitée à l'entourage. C'est le voyage qui permet d'ouvrir de nouvelles opportunités d'apprentissage. Un modèle historique intéressant, qui perdure, est le compagnonnage, vu comme un réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier. L'idée de réseau rejoint les réseaux de communication culturelle d'Ivan Illich qui reconnaît le droit d'apprendre et d'enseigner, de Richtoto Tehachenisky Schulkommende de Protection of Freedom of Speech. Apprendre et enseigner, mais aussi coopérer, c'est ce qui aurait motivé Claire et Bessufrain à créer les réseaux d'échange réciproque de savoir vers 1970 afin de faire expérimenter que l'on apprend mieux et autrement en coopérant. Enseignant à des enfants en difficulté scolaire, elle avait décidé de donner aux enfants la possibilité de transmettre des savoirs non reconnus par l'école. Selon elle, le fait d'enseigner ces savoirs valorise les enfants et leur permet de prendre conscience de leurs capacités. Ancré dans les traditions d'éducation populaire, le processus d'échange de savoirs s'est ensuite étendu à des réseaux inter-écoles pour ensuite toucher les habitants d'un quartier. Cette démarche s'est également développée dans d'autres pays, sous l'impulsion du mouvement français des réseaux d'échange réciproque de savoir. Selon un principe de réciprocité, chacun est offreur et demandeur de savoir. La mise en relation des personnes nécessite d'effectuer un inventaire des offres et des demandes de savoir, d'où la mise en place d'ateliers d'écriture, afin d'exposer au mieux ce que l'on peut proposer et les besoins que l'on ressent. Les arbres de connaissances, avec le logiciel Jingo, créé en 1992, vont offrir un outil structuré de déclaration des savoirs et des compétences, accompagnant dans les entreprises le passage aux compétences et leur évaluation en situation de travail, mais aussi l'évolution des systèmes de certification. Vers 1995 se développe l'Internet grand public, offrant de nouvelles opportunités pour l'éducation et la formation. L'expérimentation des réseaux buissonniers du Vercors a permis de relier une centaine d'écoles afin de développer un système de téléenseignement. Leur objectif était de rompre l'isolement des classes. De fait, le projet organisait des activités de lecture et d'écriture sur le réseau, conduisant les élèves à mettre en place des stratégies de partage des connaissances. Au Canada francophone, La Ferrière et Breleux ont présenté une illustration de différentes formes de partage et de collaboration sur Internet lors d'un colloque de l'Opel Furef. Au-delà de l'échange, qui peut être une simple transaction entre des personnes, l'idée de coopération, de construction collective des savoirs, anime depuis la création et le développement de l'école éloignée en réseau. L'apprentissage connecté se veut à intensité variable. L'accès à des visites virtuelles d'un musée, la mise en place d'un cours offert par un instructeur ou un établissement non rattaché à un établissement d'enseignement formel, en font partie. Des pratiques similaires continuent d'émerger notamment avec la formation en ligne et l'apprentissage autodidacte en ligne. L'apprentissage connecté se caractérise donc par des modes de circulation des savoirs ouverts, dans et hors des institutions ainsi que par des modes collectifs d'écriture et de construction des savoirs, lesquels s'associent à des formes de reconnaissance en amont, valorisant les personnes, et en aval, dans des dispositifs de certification ouverts. La définition se précise. À l'ère de la facilité d'accès aux personnes et aux informations, l'apprentissage connecté s'envisage comme une combinaison d'intérêts individuels, de relations en réseau interdépendantes, et d'expériences interconnectées qui transcendent les frontières temporelles, spatiales et culturelles. Il exploite les médias et les technologies pour étendre l'accès aux communautés mondiales ainsi qu'aux parcours d'apprentissage interculturel et interdisciplinaire tout au long de la vie. L'apprentissage connecté implique des interactions socialement ancrées et axées sur les intérêts entre divers participants ES qui collaborent en co-créant, reconstruisant et en exploitant les diverses perspectives et idées des autres tout en développant les connaissances au sein de leur communauté et pour celles-ci. Quelques repères historiques anglo-saxons ou décrits en langue anglaise. Dans la littérature anglophone, les passages de frontières temporelles, spatiales, sociales ou culturelles aux fins de connaître, rendus notamment possibles par le numérique, reflètent une insistance sur les relations, avec des personnes ou à des informations. La notion de connected learning met aussi en évidence la poursuite par l'apprenant de ses intérêts, et différents cadres conceptuels la fondent, notamment ceux de l'apprentissage en réseau et du connectivisme. Les réseaux d'apprentissage reposent dorénavant sur de l'équipement matériel de base, de logiciels et de lignes de télécommunication, suggérait Arazim et Al. Jones et allant toutefois souligner que l'utilisation de ressources numériques n'est pas une caractéristique suffisante pour définir l'apprentissage en réseau. Ce dernier se produit à partir des connexions entre un apprenant et ses pairs entre eux, les apprenants ES et les enseignants ES ainsi qu'entre une communauté d'apprentissage et ses ressources. Ces interactions peuvent être synchrones, asynchrones ou hybrides et se médiatiser par l'écrit, l'audio, l'image ou la vidéo et par des espaces de travail partagés. Ce qui montre ainsi l'étendue de l'espace des possibilités d'apprentissage en réseau et de l'espace des expériences potentielles des apprenants ES. Cette idée de connexion entre personnes avec des technologies numériques comme support est reprise par Delahaye ainsi que Godillard et Carvalho. Dans une plus récente contribution à la conceptualisation de l'apprentissage en réseau, Jones se réaffirme, tout en maintenant l'insistance sur les connexions, que l'apprentissage en réseau ne se limite pas à l'apprentissage en ligne. Quant aux concepteurs du connectivisme, ils fondent l'apprentissage sur la capacité à établir des liens avec d'autres personnes, des réseaux et des sources d'information et sur l'habileté à reconnaître ou à créer des modèles d'information utiles. Ils ont exemplifié le connectivisme en créant le premier Massive Open Online Course, soit un dispositif reposant sur l'autonomie des apprenants ES, un accès libre, des ressources diversifiées, et les interactions entre personnes qui débouchent sur de nouveaux apprentissages. Le connectivisme opère ainsi un certain renversement. L'effort de l'apprenant à tirer quelque chose prime sur l'effort de l'enseignant à inculquer quelque chose, d'où l'importance de relier l'intérêt personnel et le soutien des pairs aux opportunités susceptibles de conduire à l'apprentissage souhaité. Toutefois, prendre l'individu comme point de départ risque de cantonner la dimension sociale dans un rôle secondaire qui, d'autant plus, comme le souligne Riberg et Al, reste obscur s'il n'est pas rendu explicite. D'ailleurs, l'offre de MOOC par des universités ne donne que rarement la préséance aux interactions entre les participants ES. Selon le Connected Learning in Crisis Consortium, fondé en 2016, les méthodes d'apprentissage connectées ont fait leur preuve en particulier dans des contextes d'apprentissage marginalisés et avec des ressources limitées. C'est dans de tels contextes, avançons-nous, que cette pratique éducative prend davantage de sens comme voie d'amélioration de l'éducation formelle. Avant de présenter le cas de l'école en réseau, il importe toutefois de traiter plus à fond de la relation entre l'intérêt personnel et collectif que recèle l'apprentissage connecté. La prochaine sous-section y est consacrée alors que nous abordons la notion d'agentivité tout en discutant davantage celle d'interaction et de connexion. Agentivité, interaction et connexion. L'apprentissage connecté présuppose que tout apprentissage partant de l'intérêt d'un individu envers un objet est autogénéré plutôt que déterminé de l'extérieur. Il repose sur l'agentivité de l'individu, défini comme le pouvoir de mettre en œuvre des actions à des fins données. Un individu apprend notamment lorsqu'il est capable de poursuivre un intérêt personnel de manière engagée avec le soutien de personnes attentionnées. La situation qu'il met en place peut aussi bénéficier à d'autres. Cela reconnu, une multitude d'éléments tels que la motivation, l'assertivité, la confiance, les opportunités, le style d'apprentissage, les ressources et l'enseignant influencent la dynamique des interactions et, donc, l'apprentissage chez un individu. Outre l'agentivité de l'apprenant E, apprendre dépend aussi foncièrement de facteurs hétéronomes auxquels l'apprenant E est confronté, mais aussi du sentiment d'affiliation et de l'engagement qu'il ou elle développe ainsi que des opportunités saisies. Dès lors, une personne, qui manifeste de l'ouverture à l'altérité, apprend au sein d'un réseau, d'une communauté, qui l'influence, et qu'elle influence à son tour par son action. Cette influence mutuelle devient un apprentissage connecté lorsque les membres d'un réseau ou d'une communauté d'apprentissage entrent en dialogue et s'engagent dans une démarche collective en vue d'atteindre un objectif commun, d'approfondir ou de résoudre un problème partagé. La dynamique interactive, médiatisée par des ressources viables, consolide alors des connexions qui donnent à la communauté d'apprentissage la cohésion nécessaire à la création d'artefacts, lesquels témoignent d'une compréhension commune, d'une production collective. Diverses formes de reconnaissance individuelle ou collective peuvent en résulter. Figure 1. L'activité d'apprentissage connecté individuelle. Figure 2. L'activité d'apprentissage connecté d'un réseau ou d'une communauté d'apprentissage. C'est dire que lorsque l'individu a accès à un réseau de personnes qui se transforment en communauté d'apprentissage, l'apprentissage connecté inclut, au sens fort, les trois constituants suivants, un objectif commun ou un problème partagé. Une démarche collective de compréhension ou de production et une ouverture à l'altérité. Un tel apprentissage renvoie alors à un processus au cours duquel les participants ES se donnent l'objectif de comprendre une même question ou de résoudre un problème partagé. Ont accès à différentes ressources et co-créent des artefacts au cours de leur démarche de compréhension de la question ou de production d'une solution. Les communautés d'apprentissage en réseau et les réseaux ou communautés de pratique d'enseignants ES sont des exemples de dispositifs d'apprentissage connectés. Bien que l'apprentissage connecté puisse aussi se produire en contexte d'éducation non formelle ou informelle, c'est en contexte d'éducation formelle que nous avons choisi. Dans la foulée des outils conceptuels et des opportunités éducatives qu'offre l'apprentissage connecté, d'examiner la présence de l'accent aigu ER en contexte francophone et par la suite les classes éloignées en réseau de FONMOC. L'école en réseau en contexte francophone. Présentation générale. L'école en réseau, nommée auparavant l'école éloignée en réseau, est une initiative financée par le ministère de l'Éducation du Québec depuis 2002, lors de sa mise sur pied par le CEFRIO. Cette initiative visait à développer des solutions par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour enrichir l'environnement d'apprentissage des petites écoles rurales géographiquement isolées, dans lesquelles on observait un manque de ressources spécialisées pour les élèves, des classes à plusieurs niveaux, un petit nombre d'élèves inscrits et des enseignants ES qui soulignaient leur isolement professionnel. Le accent aigu ER leur donne accès à une infrastructure socio-numérique d'orientation et de soutien, notamment le système de vidéoconférence via le Knowledge Forum et un catalogue partagé d'activités réalisées en réseau, soit en collaboration entre enseignants ES et élèves délocalisés. Les interactions sociales multimodales à des fins d'apprentissage sont ainsi favorisées, ce qui donne l'occasion à de petites classes de différentes écoles géographiquement dispersées de travailler ensemble. C'est ce qui enrichit l'environnement d'apprentissage des élèves de petites écoles rurales, et cela passe notamment par la création de situations authentiques centrées sur des problèmes réels d'intérêt pour les élèves. Au fil des ans, un nombre croissant d'enseignants ES s'est intéressé à cette modalité de travail interclasse qui accroît les apprentissages en profondeur autour d'une investigation collective. Plusieurs classes provenant de milieux urbains se sont jointes à l'accent aigu ER. Toutefois, les motifs des enseignants ES pour travailler en réseau peuvent différer de ceux de milieux ruraux. Par exemple, l'enrichissement de la classe est perçu dans une perspective d'ouverture à l'autre et sur le monde par les enseignants ES de milieux urbains. La mise en pratique de contextes signifiants autour de dimensions de la compétence numérique constitue un facteur de choix pour les enseignants ES à travailler en réseau avec leurs élèves. En 2020, le accent aigu ER rejoint plus de 300 écoles situées dans 31 centres de services scolaires répartis sur tout le territoire québécois et continue de soutenir les milieux scolaires dans leur collaboration interclasse. Un volet important dans l'intérêt des classes concerne les possibilités d'interaction, à distance, avec des partenaires extrascolaires. Cette pratique était déjà implantée dans le accent aigu ER, bien avant le contexte actuel provoqué par la pandémie de la COVID-19. Des ressources externes intervenaient dans les classes, par visioconférence et sur le Knowledge Forum, interagissaient avec les élèves pour répondre à leurs questions, présenter un atelier sur un thème particulier ou co-construire une activité. Ainsi, l'enrichissement de l'environnement d'apprentissage s'effectue non seulement par les interactions multipliées avec d'autres classes mais également en s'appuyant sur des spécialistes de domaines de pointe qui vulgarisent les contenus au profit de l'apprentissage des élèves. En raison de son design, le accent aigu ER développe une culture de l'apprentissage connecté, puisque ses membres font partie d'un réseau qui s'alimente de leurs contributions afin de répondre à l'objectif commun qui est d'enrichir l'offre éducative en facilitant l'accès au numérique, par l'équipement, le contenu et la qualité d'usage. À l'origine, l'équipe de recherche intervention avait proposé trois modèles de communautés qui souscrivent tous, à différents degrés, aux quatre principes suivants, la facilité d'accès, les interactions humaines multimodales, l'apprentissage actif et collaboratif et la coélaboration de connaissances. C'est dire que l'organisation de l'accent aigu ER puise dans la gentilité du sujet, mais aussi, elle se forme par la nécessaire résolution des tensions qui inévitablement surgissent entre différents composants du système éducatif. Ainsi, le coaching de l'accent aigu ER, entre autres par la production d'artefacts autour de l'oscillation périodique émergeant des problèmes locaux, aide à l'évolution de son réseau, à sa pérennité et à son déploiement. En somme, le accent aigu ER comprend et exemplifie les trois constituants de l'apprentissage connecté. Cependant, par respect de la dynamique scolaire, seuls les membres de l'accent aigu ER ont accès à l'intégralité du réseau. Que l'on soit enseignant ou partenaire intéressé à conduire des activités accent aigu ER, il est toutefois facile d'en devenir membre. Même si le rôle crucial des acteurs sociaux est reconnu dans le réseau accent aigu ER, l'accès aux étrangers ne contribue pas forcément à l'apprentissage connecté au sein d'un réseau. Bien que l'accès soit une condition préalable à l'ouverture, Un accès complètement ouvert conduirait à une multiplication d'intérêts diversés, par conséquent, à une densification du réseau susceptible d'en diluer la mission. C'est pourquoi le modèle Accent aigu R, qu'adapte des acteurs ES locaux d'un contexte scolaire donné, se répand autrement que par un accès libre à sa communauté. Le Accent aigu R partage notamment son expertise en tenant des sessions de transfert et en collaborant à des MOOC, dont classe éloignée en réseau de FONMOOC, et à J'enseigne à distance de l'Université TELUC. Classe éloignée en réseau de FONMOOC. Créée en 2018, les classes éloignées en réseau est une formation portée par l'Université Paris-Descartes, maintenant intégrée dans l'Université de Paris, en partenariat avec l'Académie de Clermont-Ferrand et accessible sur la plateforme française FONMOOC. Cette formation se consacre au modèle de l'accent aigu R. Plus précisément, elle conduit les participants ES à faire l'expérience d'une mise en réseau de classes de petites écoles de milieux ruraux éloignées des grands centres. La formation rejoint deux publics, les enseignants ES, formateurs et formatrices, parents, etc., intéressés ES à comprendre le fonctionnement des classes en réseau et les classes qui mettent en œuvre certaines activités en réseau au sein du MOOC. Le MOOC présente des textes et des vidéos qui offrent un tour d'horizon des questions générales sur l'apprentissage connecté, le dispositif Accent aigu R, le travail collaboratif, la co-élaboration de connaissances, la pédagogie de l'enquête, la co-écriture de textes et différentes questions d'ergonomie. La formation finit autant par des présentations sur la pensée informatique et la robotique éducative que par de courts films autour d'activités robotiques que des élèves de primaire illustrent. Pour les classes, plusieurs activités sont proposées. En amont de la diffusion du MOOC, les élèves sont invités à présenter leur école et son environnement. 25 classes, des écoles du Québec, de France et de Tunisie, se sont mobilisées pour partager leur environnement avec les autres participants ES au MOOC. Les élèves se sont investis à leur manière, ce qui rend chaque présentation unique. La présentation des élèves de l'école Jean Zas est d'ailleurs glissée dans la vidéo promotionnelle du MOOC. Afin d'inciter les élèves à regarder les différentes présentations, le MOOCER proposait un jeu, à partir d'un tableau affichant des images extraites de chacune des présentations vidéo. Les élèves devaient associer chaque image à l'école correspondante. Les classes ont également proposé des énigmes, à discuter dans le forum, le plus souvent ancré dans leur environnement local. En voici quelques exemples. Les cristaux que l'on peut retrouver dans l'eau d'érable ont-ils des formes similaires aux cristaux de neige? Quel est le mets préféré de la Bigorne? Je suis une figure historique qui a fondé une ville connue, la nouvelle ville sur la côte tunisienne en 814 avant J.C. Je suis venu fuir de la ville de Tyr au Liban à cause de la dictature de mon frère. Qui suis-je? Certaines énigmes ont été proposées sous forme d'une image ou d'un poème. Je ne manque pas d'ordre mais j'ai mon ordre à moi, le duc devant le prince avant le roi, je place le faible un peu avant le fort, et si je porte le deuil avant de voir la mort, c'est que la mort, chez moi, précède toujours la naissance, tout comme l'adulte vient avant l'enfance. Qui suis-je? Une autre activité leur a été proposée, la création de galeries sur le chemin de l'école. Sur le chemin de ton école, choisis quelque chose de spécial que tu prendras en photo pour le montrer à tous les autres participants ES du MOOC. Un nid à l'Oda. Nous l'avons pris en photo, ensemble. Voilà le criquet africain qui se trouve près de l'école. Nous avons rencontré un pêcheur sur le quai municipal. Il en a profité pour pêcher un achigan à petite bouche. Nous avons dû le relâcher à la rivière car la pêche à l'achigan débute seulement le 15 juin 2018. Chaque semaine, une activité de programmation, nommée Robots et Tortues, était présentée et le MOOC s'est terminé sur la participation à un concours. Malgré une participation timide, le MOOCER a réussi à mobiliser une communauté élargie, composée d'élèves, d'enseignants ES, de parents, d'institutions scolaires et de chercheurs ES, autour d'activités collaboratives entre classes. Il a également été l'occasion de tester, à grande échelle, un modèle d'apprentissage en réseau et d'examiner les opportunités offertes par ce dernier autour du développement professionnel des enseignants ES. De la question de ressources éducatives et de celle des transferts possibles des contenus de formation vers les activités pédagogiques en classe. Quant au suivi du MOOC, certaines difficultés ont été repérées, la temporalité de la formation n'est pas celle de la classe, ce qui rend le suivi difficile. De même, face à des problèmes d'appropriation, se pose la question d'une formation pour la gestion de la classe en réseau, pendant un MOOC. Enfin, l'inadaptation de l'interface du forum et son manque d'ergonomie n'ont pas facilité l'appropriation du MOOC. Un enseignant estime qu'elle n'est pas réellement accessible aux élèves, et qu'elle ne leur permet pas de poster eux-mêmes les messages. La réouverture du MOOCER, hors forum, en période de confinement, a suscité la curiosité de près de 900 personnes, sans doute à la recherche d'opportunités d'échange, d'idées d'activités ou de ressources délocalisées à exploiter collectivement. En effet, la façon de faire la classe durant le confinement s'est parfois réduite à donner des exercices et des devoirs à effectuer à la maison. Envoyer des consignes écrites, fournir des cours à imprimer ou à lire à l'écran, prescrire des devoirs à faire, ne sont pas des tâches très compliquées. Cela revient presque à ce que l'on appelait auparavant les cours par correspondance. Pour des parents non préparés, c'est comme exporter à la maison une version fermée et angoissante de l'école, qu'on leur demande de prendre en charge. Pensez autrement l'éducation formelle, hors de la classe et ouvrant à des activités d'exploration et de découverte, de partage, diversifiant les moments, donnant un rôle au collectif, est un enjeu fort, qui viendra, nous le souhaitons, nourrir la formation et le développement professionnel des enseignants ES. L'école en réseau a d'ailleurs fourni, notamment à l'éducation formelle des jeunes de 6 à 16 ans, des idées intéressantes pour organiser des activités d'apprentissage en réseau, travailler collectivement ou se lancer dans des enquêtes collectives. La sous-section suivante en témoigne. J'enseigne à distance. Créé par l'Université TELUC, sur demande du MEI, J'enseigne à distance est un ensemble de micro-programmes de formation en accès libre, visant à permettre aux enseignants ES en exercice de s'adapter au passage nécessaire à l'enseignement tout ou partiellement à distance en contexte de pandémie. Elle a déjà intéressé plus de 150 000 visiteurs de 144 pays et compte plus de 25 000 abonnés ES à sa liste de diffusion. L'objectif premier est d'outiller tant au niveau pédagogique que technologique les enseignants ES de différents ordres à la formation à distance. Les quatre micro-programmes, accompagnés, adaptés, diffusés et évalués, sont déclinés différemment selon l'ordre d'enseignement concerné. Un travail en réseau important a été déployé afin d'adapter au mieux la formation aux réalités et aux besoins des enseignants ES. En ce qui concerne le préscolaire et le primaire, le premier micro-programme, accompagné, vise à outiller les enseignants ES dans l'amorce des premiers contacts avec les élèves en contexte de classe à distance, mais également à organiser l'enseignement-apprentissage. Le deuxième micro-programme, diffusé, a pour objectif d'aider les enseignants ES à choisir les outils technologiques pour enseigner à distance en leur présentant les outils les plus fréquemment utilisés et les plus simples. Le troisième micro-programme, adapté, propose des pistes pour adapter ses cours à distance dans différentes disciplines ainsi que des pistes d'action particulières pour les élèves à besoins spécifiques et les enfants à l'éducation préscolaire. Finalement, le quatrième micro-programme, évalué, constitue un rappel des principes de base en évaluation. La conception des quatre micro-programmes a mobilisé l'implication et la collaboration de plusieurs partenaires, soit des enseignantes ressources de l'Accent Aiguère, des conseillers pédagogiques du Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin, des membres des services nationaux du Récit ainsi que trois professeurs ES du département d'éducation de la TELUC. Il s'agit d'un travail en réseau de praticiens ES de différents horizons afin de créer de courts textes, des capsules vidéo, des schémas et des questionnaires interactifs pour former au mieux les enseignants ES. Des exemples d'applications concrètes et des journaux de bord sont également fournis pour favoriser l'appropriation et la réflexion sur les différents éléments proposés. Enfin, de nombreux témoignages vidéo et écrits des enseignants ES ayant expérimenté l'enseignement à distance sont présents pour permettre aux apprenants ES de mieux se familiariser avec des pratiques novatrices. La formation cherche à montrer en quoi certaines pratiques peuvent permettre de favoriser et de consolider les apprentissages des élèves à distance. La collaboration de l'Accent Aiguère a mené à des connaissances et des pratiques nouvelles en ce qui a trait à l'enseignement à distance, telle la formation explicite aux pratiques enseignantes courantes dans l'Accent Aiguère et à leurs principes sous-jacents. L'expertise développée depuis plus de 15 ans par des enseignants ES du préscolaire et du primaire de l'Accent Aiguère a permis de transposer leurs pratiques de travail interclasse à un contexte de classe à distance. Par conséquent, les micro-programmes de l'ordre d'enseignement préscolaire primaire de la formation J'enseigne à l'école diffuse, sans les prescrire, des pratiques de l'Accent Aiguère dans le réseau des enseignants ES. L'accès aux ressources pédagogiques et didactiques du réseau Accent Aiguère et le partage de l'expertise aident à faire face à un problème partagé par l'ensemble des participants ES à la formation, à savoir comment mieux faire réaliser des apprentissages à distance. Il demeure impératif de poursuivre le soutien aux enseignants ES dans une visée collaborative. Les modalités à explorer sont multiples mais le besoin d'accompagnement est bien réel. L'apprentissage de l'enseignement en collaboration est au centre de la formation. Un besoin de reconnaissance dans l'apprentissage connecté, prenant initialement la forme de ressources libres de formation pour les enseignants ES, la formation J'enseigne à distance ne prévoyait pas de suivi et de certification des apprentissages. Les nombreuses demandes qui sont arrivées après la mise en ligne des deux premiers modules ont amené à la mise en place d'un système d'attestation pour chaque micro-programme. De fait, au-delà des bénéfices tirés en matière d'apprentissage, les apprenants ES souhaitent trouver une forme de reconnaissance, et cela n'est pas toujours évident dès lors que l'on sort des cadres académiques classiques. Une reconnaissance pour tirer bénéfice des formations. Les exemples précédents illustrent l'intérêt des modèles connectés pour améliorer l'enseignement formel et les multiples opportunités offertes par Internet, en lien ou hors des institutions classiques d'enseignement, notamment en formation des adultes. Une tendance sociétale actuelle très forte, dans une conception de type néolibéral, est de rendre les personnes de plus en plus responsables de leur propre apprentissage. Par exemple, le cadre européen des compétences numériques est conçu pour aider les citoyens à s'auto-évaluer, à fixer des objectifs d'apprentissage, à cerner les possibilités de formation et à faciliter la recherche d'emploi. Si les personnes prennent en charge la gestion de leur propre apprentissage, elles ont également besoin de reconnaissance, mais pas toujours le temps d'acquérir les diplômes délivrés par les institutions. Cato et al. Constatent l'émergence de nouveaux diplômes alternatifs, tels que les micro-diplômes, les badges numériques et les certificats reconnus par l'industrie. Cela en raison d'une demande croissante pour des formations de perfectionnement et de reconversion professionnelle. D'ailleurs, dès 1970, l'Open University du Royaume-Uni avait commencé à ouvrir ses cursus, ce qui n'a fait que s'accélérer, là et dans d'autres institutions de formation, au moyen d'Internet. De telles formations viennent aider des apprenants ES à actualiser leurs compétences, à certifier celles qu'ils et elles possèdent déjà et à en acquérir de nouvelles. Les plateformes de MOOC, Coursera, EDX, Udacity ou encore PhoneMOOC et FutureLearn ont déployé des formations de type micro-accréditation. Ce sont des formations dérivées des MOOC, mais plus conséquentes, avec une valeur certifiante plus importante et potentiellement davantage valorisable professionnellement. Des entreprises privées ont également adopté ce modèle de formation. ICCF-SEC Paris est une formation de type micro-accréditation proposée par une entreprise en partenariat avec une grande école de commerce. Il s'agit d'une série de trois cours en ligne en finance d'entreprise, sanctionnés par un examen final en salle. Dans sa thèse, Huguenin a cherché à comprendre et à expliquer les dynamiques individuelles de personnes engagées dans ce type de formation et les bénéfices qu'elles pouvaient en retirer, incluant les retombées pour leur communauté professionnelle locale. Selon la figure 2, la relation entre l'intérêt personnel et collectif se manifeste au local à travers une quête de cohésion susceptible de culminer dans des formes de reconnaissance nouvellement négociées. Délocalisé, l'apprentissage connecté manifeste l'agentivité de l'individu, sans minimiser la dimension sociale. Par exemple, dans le cas étudié par Huguenin, les participants ES ont à leur disposition de nombreuses ressources leur permettant de développer leurs connaissances. Des espaces synchrones et asynchrones d'échange sont également proposés, forums de discussion et classes virtuelles. Ces espaces sont utilisés pour poser des questions d'ordre pédagogique et organisationnel. Les échanges entre les participants ES, certains ES se risquant également à répondre aux questions des autres, et avec les tuteurs et les tutrices et les formateurs et les formatrices, viennent enrichir le contenu du cours. Des participants ES les exploitent comme de véritables sources documentaires et notent dans des carnets les informations relevées. Du côté reconnaissance individuelle, chaque cours est sanctionné par une étude de cas, qui doit être validée pour pouvoir passer l'examen final et ainsi espérer obtenir une certification labellisée. La reconnaissance collective s'est produite en amont pour les participants ES qui ont collaboré et atteint une certaine cohésion dans leurs interprétations des questions à l'étude. Toujours dans le cas de la communauté délocalisée étudiée par Huguenin, près de la moitié des participants ES ont créé des groupes de travail, ou y ont participé, pour se préparer à l'examen. Certaines se sont rencontrées ES physiquement et d'autres ont travaillé exclusivement à distance, en organisant des visioconférences, en échangeant des courriels ou en discutant dans des groupes WhatsApp, créés exclusivement pour la formation. Les relations développées au cours de la formation perdurent parfois à son issue. Outre des relations amicales, des relations d'entraide des professionnels sont conservées. Des personnes sont parfois amenées à collaborer professionnellement par la suite et d'autres font part d'opportunités professionnelles dont elles ont vent ou partagent certains de leurs contacts. Une reconnaissance locale pour s'engager dans les formations. Les badges ouverts sont aussi une autre modalité de reconnaissance individuelle qui se développe. Dans un contexte où les apprenants ES sont en recherche de reconnaissance, en matière de bénéfices tangibles, les badges peuvent apparaître comme une sorte de monnaie capitalisable dont l'acquisition permet diverses transactions et le cumul donne l'équivalent d'un diplôme. On peut aussi y voir là une modalité de reconnaissance collective locale, soit quand l'individu renforce sa place sociale au sein de communautés locales, familiales, professionnelles ou autres, voire retrouve ou acquiert une place sociale. Ravet, défenseur d'une reconnaissance ouverte, permettant à chacun d'être un participant actif et actif dans un écosystème de reconnaissance mutuelle, propose de reconnaître les pratiques en lieu et place de la reconnaissance des compétences. La reconnaissance est d'un certain point de vue hyperlocal et c'est cette hyperlocalité qui lui confère une valeur globale, et non l'inverse. L'espace de la reconnaissance est celui de la communauté dans laquelle la compétence est construite et mise en œuvre. La reconnaissance peut alors constituer un élément déclencheur dans l'engagement envers l'apprentissage connecté, reconnaître les autres en leur attribuant un badge. C'est aussi se faire reconnaître en tant que personne capable d'attribuer des badges. L'association Reconnaître aura récemment nommé Claire Hébé Suffren présidente d'honneur, attestant de la continuité des réflexions et des mises en œuvre, une classe coopérative. Un réseau d'échanges réciproques de savoir mutualise des reconnaissances qui auront des effets sur les apprentissages et sur l'expérience de la solidarité. Perspective de l'apprentissage connecté, comment gérer collectivement la désinformation ? Dans l'éducation formelle, l'apprenant est très souvent captif et captive. C'est le cas notamment de l'enseignement scolaire et on constate que l'apprentissage connecté peut venir en réponse à des difficultés constatées. Que ce soit lié à la sauvegarde des petites écoles rurales ou à la motivation de publics spécifiques d'élèves en difficulté. Mais l'apprenant est dans un cadre le plus souvent protecteur. Pour les éducations non formelles ou informelles, l'apprentissage connecté, avec les ressources d'Internet, offre une multitude d'opportunités, mais pas toujours un cadre balisé et rassurant. Les choix reposent en grande partie sur l'apprenant. Une question importante est de savoir à qui accorder sa confiance, aux institutions ou aux réseaux. Bien sûr, le est non exclusif et il est possible d'articuler des formations proposées par les institutions et d'autres hors des cadres institutionnels, mais le processus permettant d'accréditer telle ou telle offre est complexe. Avoir recours à un tiers de confiance est une pratique qui se développe, mais elle peut se heurter au communautarisme du web, c'est-à-dire au fait d'accepter sans discernement tout ce qui émane d'une communauté dans laquelle les personnes sont intégrées ou se sentent proches. Dans son étude sur le comportement des jeunes eu égard aux fausses nouvelles, Abdoul constate que les jeunes montrent une vigilance vis-à-vis des informations qui leur parviennent, mais pas s'il s'agit d'écologie, domaine dont il défend et relaie les idées. Ils ont tendance à discuter des informations avec leurs parents, notamment lors du repas du soir. Cela montre l'importance des rituels locaux et des échanges dans des communautés proches. On peut penser que l'habitude de résolution collective de questions dans le cadre de l'accent aigu ER peut aider à développer des formes de résistance active à la désinformation. La désinformation devient un phénomène incontournable sur lequel se pencher pour les chercheurs de différentes disciplines. Conclusion. Dans ce texte, nous avons présenté l'apprentissage connecté en contexte francophone comme privilégiant l'action, une amélioration de l'enseignement formel dans des situations problématiques. L'expérience de la continuité pédagogique atteste que les réponses apportées peuvent bénéficier à tous et à toutes, de la même manière que développer des modalités de formation en réponse à divers handicaps peut être utile pour tous les élèves. D'où l'importance des formations pour les enseignants ES afin de mieux comprendre les processus d'apprentissage connectés dans les contextes scolaires défavorisés ou dans ceux qui résistent mieux au confinement. Un double processus est alors à l'œuvre, une ouverture vers l'extérieur pour accéder à de nouveaux possibles et enrichir le contexte, un retour vers l'intérieur, vers le local collectif et pas seulement individuel, afin de mettre en place une reconnaissance interne. Articuler le réseau étendu et la communauté locale conduit à une double reconnaissance, externe, avec les habitudes de l'école et interne, pour se sentir bien dans son environnement local. On retrouve cela en formation d'adultes, avec les micro-accréditations, une ouverture vers un réseau étendu, un groupe de proximité avec un réseau professionnel de confiance plus resserré. Auteur. Éric Bruyard, professeur de sciences de l'éducation, Université de Paris, directeur du laboratoire EDA, président de l'IARTEM, concepteur et coordinateur de la série de Mokefan, rédacteur en chef de STICEF de 2003 à 2015. Kansa Gabara, doctorante en sciences de l'éducation autour des questions de collecte, d'analyse des données d'apprentissage et de leur mise en relation dans l'enseignement scolaire, responsable du pôle développement, architecture et data. Sonia Huguenin, docteur en sciences de l'éducation, thèse soutenue en février 2021, étude du projet de formation individuelle des participants à la formation ICCF-HEC Paris et de sa mise en œuvre, entrée, suivi et valorisation. Ingénieur pédagogique, Pierre-Luc Jolicoeur est doctorant en technologie éducative à l'Université Laval et auxiliaire de recherche pour l'équipe TACT. Pierre-Luc s'intéresse à l'espace dialogique, la coélaboration de connaissances, l'apprentissage collaboratif assisté par ordinateur et l'évaluation de la collaboration. Thérèse Laferrière est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, ex. Directrice du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire et chercheure principale du réseau Périscope et rédactrice en chef de médiation et médiatisation. Marie-André Pelletier, PhD et professeure spécialisée à l'éducation préscolaire au département éducation de l'Université TELUC. Elle compte près de 15 ans d'expérience comme enseignante à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire. Elle a fait partie de l'équipe des professeurs responsables des micro-programmes de la formation J'enseigne à distance pour les niveaux préscolaire et primaire.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial CC by NC 4.0 International License. This is the end of the article. The full text of this article is available at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca.